Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins cherchent tous les jours à sortir de l'ère des ténèbres en compagnie de Tristan Grenassia, Géraldine Mosna-Savoie, Kieran Gessel, Antoine Ravon et Colomba Grossi, à la réalisation cette semaine Midia Portis-Guérin, à la lecture des textes Olivier Martineau, avec aujourd'hui à la prise de son Arnaud Chapat. À 10h51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses deux minutes papillons. Géraldine qui donnera la parole aujourd'hui au philosophe Francis Métivier, qui anime ce soir la première des quatre rencontres du cycle Rock and Philo au MK2 Grand Palais, où vous pourrez l'entendre jouer de la musique et commenter ses morceaux avec des textes philosophiques, des concerts qui correspondent à la sortie de son ouvrage du même nom aux éditions J'ai lu. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous tentons de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. Actualité éditoriale bien sûr, mais aussi séminaires et festivals, autant de façons de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Michel Terechenko, qui après son ouvrage intitulé « Ainsi fragile vernis d'humanité, banalité du mal, banalité du bien » paru chez La Découverte en 2005, et celui sur le bon usage de la torture ou comment les démocraties justifient l'injustifiable, publié en 2008, toujours chez La Découverte, fait paraître ce mois-ci « L'ère des ténèbres », dans lequel il en appelle à un débat public sur ce que l'on appelle la guerre contre le terrorisme et qui désigne en réalité des violences exercées sur un territoire mondialisé en violant le droit et les principes fondamentaux des démocraties occidentales. Bonjour à vous Michel Terechenko.
Bonjour.
Oh shit. Oh shit. Oh man. Holy shit.
Ce qui m'a beaucoup frappé ces dernières années, c'est que les crimes et les désastres les plus terrifiants, purges, déportations, massacres, famines, emprisonnements sans jugement, guerres d'agression, traités rompus, non seulement n'émeuvent pas la masse du public, mais passent complètement inaperçus s'ils ne correspondent pas à l'humeur politique du moment. Comment fait-on, Michel Terechenko, lorsqu'on est philosophe comme vous, qu'on écrit des livres de philosophie en partie politique et géopolitique comme vous, qu'on réfléchit sur la torture, sur le non-respect du droit parfois dans la justice, pour, comme le dit Orwell dans le texte que j'ai lu, hein, Réflexion sur la guerre d'Espagne, essayer d'émouvoir la masse du public et de ne pas passer inaperçu si ce qu'on dit ne correspond pas à l'humeur politique du moment?
Ben c'est bien la difficulté, en effet, de... d'écrire un texte et de construire une argumentation qui nous mette sous les yeux, qui nous permette de voir ce que nous avons sous les yeux et que nous ne voyons pas. Et c'était l'inquiétude d'Orwell, de voir ce que nous avons sous les yeux et qu'on ne verra en réalité généralement que de façon rétrospective en se demandant mais comment ont-ils pu laisser faire, comment ont-ils pu ne pas avoir le discernement ou l'intelligence de la situation présente, etc. Il me semble, au regard de la situation présente, que nous sommes dans une situation comparable où il s'agit précisément de, encore une fois, de voir vraiment ce que nous avons sous les yeux et qui, en un certain sens, nous échappe malgré toute l'information dont nous disposons. Et donc, une certaine forme de cécité qui conduit aussi à une certaine forme d'acceptation et de passivité de ce qui, pour moi, mais pas pour moi simplement, de ce qui, je crois, est en soi pas acceptable.
Expliquons ce dont nous sommes en train de parler, hein, pour bien comprendre l'enjeu de votre livre, ce qu'il vous paraît inacceptable et ce qui a sans doute justifié l'écriture de ce livre que vous avez écrit très rapidement, hein, je crois, c'est le constat d'une violence en miroir entre d'un côté les puissances occidentales et de l'autre ce que vous appelez les fondamentalismes islamistes, et d'en appeler à un dépassement de ce mal contre le mal, ce qui ne fait que produire l'ère des ténèbres, c'est le titre de votre ouvrage, et d'essayer peut-être de déplacer la réflexion ou même l'action au-delà de cette politique du mal contre le mal.
Oui, je crois que ce qui est très difficile, si vous voulez, c'est d'échapper un peu au piège dans lequel on se trouve, et qui est celui d'une vision manichéenne des choses, entre, si vous voulez, le « eux » et le « nous », entre les démocraties libérales et puis les expressions proprement barbares, en effet, que nous connaissons tous. Il y a une vision manichéenne qui, moi, me semble hautement discutable, au sens où je suis parti, au fond, d'un effroi, parce qu'il y a d'abord eu la torture, effectivement, au lendemain du 11 septembre, et les centres de détention secrets. Et vous savez que le Sénat américain, enfin la Maison Blanche, a déclassifié le rapport du Sénat américain en décembre 2014, qui est un réquisitoire et terrible sur les pratiques de la torture par la CIA et la situation dans laquelle l'impunité elle a agi. Et cela a déclenché relativement peu de discussions de fond. Je dis pas simplement de protestation, mais vraiment de discussion de fond sur ce que les démocraties ont pu faire. Et moi, je suis parti, disons, de là, tout à fait récemment, mais d'un effroi qui était plutôt lié à l'usage des drones. Des drones armés, de leur application, et avec l'idée, si vous voulez, que, au fond, les politiques qui ont été mises en œuvre par les démocraties occidentales depuis 2001, de toute évidence, n'ont pas été de nature à endiguer la tache de sang du terrorisme, mais au fond, constituent une espèce de piège, d'auto-réaction, où chaque camp, d'une certaine manière, prétend incarner le bien et l'autre le mal, et trouve autant de raisons, précisément, dans les pratiques de l'autre, pour agir comme il le fait, et dans le cas des démocraties occidentales, pratiquant tout de même des choses qui sont totalement contraires à nos principes, à nos normes, à nos valeurs fondamentales, la torture, les centres de détention secrets, les exécutions ciblées. Et tout cela, si vous voulez, ce qui est terrible, hein, je crois. La première chose qui est terrible, c'est que c'est la violation de nos normes absolument fondamentales, de ce qui structure les sociétés occidentales, leurs conquêtes normatives, juridiques, éthiques, enfin bon, depuis le XVIIIe siècle. Et que tout ça, elle est balayée à la faveur de la guerre contre le terrorisme, ou du moins ce qu'on appelle en ce nom, comme ça. C'est-à-dire, ça passe, si vous voulez. Ça passe sans discussion, et je crois que c'était très grave. Outre le fait que, bien évidemment, ces pratiques ou ces politiques conduisent à des dynamiques de transformation sociale de nos propres sociétés sur lesquelles on devrait s'inquiéter, mais ça, je pense qu'on y reviendra. Et donc, je suis parti de cette situation d'effroi. C'est-à-dire, au fond, si vous voulez, de logiques qui s'auto-alimentent l'une l'autre, dans une espèce de spirale de vengeance et de haine, sur un espace, en effet, qui est déterritorialisé, et dont on ne voit pas la fin. Et je me suis dit, il faut donner des clés de compréhension. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que ça signifie, ce qu'on a fait? Je ne parle même pas de la question de l'utilité. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Pourquoi? Quelles sont leurs logiques à l'œuvre? Quelles sont leurs raisons? Quelles sont les idéologies dont ils procèdent? Essayer de donner des clés de compréhension pour, en effet, mener un débat public, mais pour ne pas être pris dans le piège du débat.
Voilà.
De la situation, disons, plutôt.
Précisément, le piège est-il dans le débat? Ou plutôt, et là l'adversaire serait d'autant plus redoutable qu'il est nous-mêmes en un sens, dans la passivité ou l'une forme soit d'indifférence, soit d'acceptation d'un état de fait, d'une situation qui ne l'est pas du tout, qui n'est pas du tout acceptable, mais à laquelle on réagit sans rien faire finalement. Le plus scandaleux est-ce la façon dont les démocraties occidentales agissent au nom d'une guerre contre le mal, reprenant par là les mêmes arguments que les djihadistes eux-mêmes, pour faire court, ou bien le fait que les citoyens que nous sommes ne nous indignons pas ou si peu du fait que ces démocraties-là, en agissant de telle sorte, enfreignent leurs propres lois.
Oui, alors mon inquiétude, c'est ça. C'est pas simplement ce que les États ont fait, ou ce que les gouvernants ont fait au lendemain du 11 septembre, etc. Bon, Mais c'est la passivité, en effet, vous avez raison, c'est bien la passivité avec laquelle nous acceptons dans une situation de désarroi, parce qu'on ne comprend pas, enfin, on n'a plus véritablement les clés, on est pris dans cette situation, on réagit, les États réagissent à courte vue, et au fond d'une façon inefficace ou inutile, enfin. Mais c'est cette passivité des citoyens, c'est ce que soulignait précisément Orwell, et qui pour moi est mon inquiétude la plus profonde. Et si nous, aujourd'hui, alors évidemment, par exemple, les gens de ma génération, moi, disons, qui ont connu la guerre froide encore à peu près, qui ont vu ce monde émerger, si vous voulez, qui ont vu ce monde émerger, ce monde de violence, ce monde du terrorisme émerger. Nous, on a encore les clés pour comprendre, on a clairvoyance pour comprendre la nouveauté. On peut éventuellement travailler, réfléchir, se documenter et avoir les clés pour comprendre les phénomènes à l'œuvre. Mais imaginez nos enfants et nos petits-enfants qui vont naître dans ce monde-là. Ils n'auront plus aucune clé. Ils ne verront même plus la nouveauté, ce sera le monde dans lequel ils sont nés, et ils n'auront plus la capacité même d'exercer un regard critique. Nous avons encore la possibilité d'exercer un regard critique, parce que nous mettre à distance, même une distance historique et une distance intellectuelle, bien sûr, par rapport à cette réalité. Mais c'est déjà une distance difficile, parce que l'argument, par exemple, c'est utilité ou inutilité. Mais avec l'argument de l'utilité des politiques de mise en œuvre et même des politiques de sécurité, vous pouvez trouver des arguments pour et des arguments
contre. Est-ce que la fin justifie les moyens, en fait? C'est ça la question.
Oui,
quand mais vous dites utilité, c'est ça.
Oui,
c'est...
Et certains vous diront oui, c'est utile et donc il faut plus de sécurité. Ou c'est utile, mais il n'y a pas assez de sécurité, donc il en faut plus. Et d'autres vous diront mais attendez, les politiques qui sont mises en œuvre sont totalement inutiles et donc il faut changer radicalement de politique. Ça, c'est pas un argument. Nous, ce que nous devons voir. Mais vraiment, ce que nous devons voir, c'est que nous sommes en train de violer, absolument de violer, les normes fondamentales, structurantes du droit. Pas simplement des lois qu'on peut transformer, qu'on peut interpréter par des casuistiques, comme ça a été le cas s'agissant au lendemain du 11 septembre, où les juristes ont été utilisés, pour justifier le recours à la torture. Mais du droit. Et finalement, peu de gens, même parmi les juristes, si vous voulez, se rendent compte ou réalisent que le droit est une force de structuration de la société. Aujourd'hui, le droit, c'est la seule chose qui résiste. La morale est extrêmement fragile. Et s'agissant de la torture, j'avais montré qu'elle est très fragile. Les convictions individuelles sont aussi diverses que les individus. L'économie est évidemment pas d'une force de structuration, mais d'une toute autre nature. Donc, qui a plutôt tendance à démolir les sociétés plutôt que... Et donc, ce qui nous reste, c'est le droit. Si nous renonçons au droit, si nous renonçons aux principes fondamentaux, la violation de la torture, si nous acceptons les exécutions ciblées, c'est-à-dire qu'aux informations, vous entendez le matin, on vous dit, tel chef d'Al-Qaïda a été assassiné. Attendez. Mais qu'est-ce que c'est en termes de droit? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette licence, si vous voulez? Et sans fin. Imaginez, bien sûr, les effets que ça fait de l'autre côté. Alors, s'ils pratiquent l'assassinat, nous pouvons pratiquer l'assassinat. Nous sommes pris dans une spirale infernale. Vous savez, il y a une clé pour comprendre, je veux dire, cet échec et ce piège que j'essaye d'analyser tout en donnant des clés de compréhension, pour revenir de plus loin. C'est une phrase de Ben Laden. Ben Laden a dit quelques jours après le lendemain du 11 septembre, les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont condamnés dans les démocraties occidentales. Nous allons créer les conditions d'un enfer insupportable et d'une vie étouffante. Eh bien, nous y sommes. La question que se posait au lendemain du 11 septembre, et il y a des gens qui disaient, la question c'est de savoir, c'est pas de savoir qui ils sont, la question c'est de savoir qui nous sommes. Et nous sommes tombés dans le piège. Mais c'est terrible, si vous voulez.
Alors, vous prenez dans votre livre, qui est extrêmement bien documenté, très précis, vous fonctionnez par portrait, hein. Il y a un chapitre consacré à l'Odyssée de Slahi, il y a un chapitre consacré à Obama, le Deux Visions de Dieu, Saïd Qutb, le doctrinaire de l'islamisme radical, on va y revenir, on va les présenter, parce que c'est très important pour comprendre ce dont nous parlons aujourd'hui, puis l'approche de votre livre. Commençons par Obama lui-même, si vous le voulez bien, parce qu'il nous permet de comprendre un des dangers du glissement qui peut n'être que sémantique, mais qui en fait engage beaucoup plus l'action que simplement le langage, entre la justice et la vengeance, puisqu'Obama prononce un discours en 2009, le discours du Caire, où il en appelle un nouveau départ entre les États-Unis et les musulmans. Et puis deux ans plus tard, après l'élimination d'Oussama Ben Laden, il prononce cette phrase si forte, « Justice is done ». Écoutons-le.
Aussi longtemps que nos relations seront définies par nos différences, nous donnerons du pouvoir à ceux qui sèment la haine plutôt que la paix, à ceux qui font la promotion du conflit plutôt que de la coopération. Ce cycle de méfiance et de discorde doit s'achever. Je suis venu chercher un nouveau départ entre les États-Unis et le monde musulman. Un départ fondé sur l'intérêt mutuel, le respect mutuel, un départ fondé sur cette vérité que l'Amérique et l'islam ne s'excluent pas.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Americans understand the costs of war. Yet, as a country, we will never tolerate our security being threatened, nor stand idly by when our people have been killed. We will be relentless in defense of our citizens and our friends and allies. We will be true to the values that make us who we are. We can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done.
Il ne faut pas que l'acte de réparation soit exercé par l'individu lésé ou par ceux qui dépendent de lui. Car chez eux, la restauration du droit en son caractère universel se trouve liée au caractère fortuit de la passion. La réparation ne peut être l'œuvre que d'un tiers, à cet effet commis, qui ne fasse valoir et n'effectue que de l'universel. Et dans cette mesure, elle est punition. Éclaircissement. La vengeance se distingue de la punition en ce que l'une est une réparation obtenue par un acte de la partie lésée, tandis que l'autre est l'œuvre d'un juge. Il faut donc que la réparation soit effectuée à titre de punition, car dans la vengeance, la passion joue son rôle et le droit se trouve troublé. De plus, la vengeance n'a pas la forme du droit, mais celle de l'arbitraire, car la partie lésée agit toujours par sentiment ou selon un mobile subjectif. Aussi bien, quand le droit se présente sous la forme de la vengeance, il constitue à son tour une nouvelle offense, n'est sentie que comme conduite individuelle et provoque inexpiablement à l'infini de nouvelles vengeances. C'est Hegel dans Les principes de la philosophie du droit qui procède à cette distinction très utile, Michel Terechenko, entre la vengeance et la justice, faisant écho donc au discours de Mamak qu'on a entendu, le deuxième discours de 2011 suite à l'assassinat de Ben Laden, où il disait « justice is done » en se référant à ces familles qui avaient perdu les leurs lors de ces combats contre Al-Qaïda. En disant que ça y est, la justice était faite. Ce faisant, il confond vengeance et justice, puisque finalement, il répond par un acte identique à celui qu'il a reçu et qui a causé du tort à son propre pays. Le gros malentendu vient peut-être tout simplement, si j'ose dire, de là.
Mais bien sûr, c'est une phrase terrible. C'est une phrase terrible et dont on peut s'étonner qu'elle n'ait pas davantage soulevé, au fond, des contestations, des protestations et des interrogations profondes. Dans le texte de Hegel, bien sûr, il dit quelque chose de tout à fait essentiel, hein, mais c'est précisément la description de la situation dans laquelle nous sommes et que j'analyse, c'est-à-dire la spirale de la vengeance. Précisément parce que c'est la violation du droit et la négation du droit. Ce qui est très frappant, mais très frappant, et même de part et d'autre, entre les démocraties occidentales et les mouvances de l'islamisme radical. Il y a un trait qui est tout à fait commun, au-delà bien évidemment des différences. Bon. C'est la suppression de la médiation. C'est la suppression du tiers.
Ce tiers dont parle Hegel, oui.
C'est la suppression du tiers. Du côté islamiste, c'est la suppression du tiers, parce que ce ne sont plus les institutions, il y a la suppression des institutions, la suppression de la tradition, la suppression de la délégitimation de toutes les autorités religieuses, universitaires, et de la délégitimation de toute la tradition. Bon. Mais en Occident, dans les démocraties occidentales, il y a aussi une suppression de toutes les médiations. Il ne reste plus que la décision du chef, en tant que comme président des États-Unis, de commander, de mener la guerre comme il l'entend, en l'absence en réalité de tout contrôle. Et ça, c'est extrêmement frappant. Les médiations ont disparu. Mmh. Et au fond, elles ont disparu. Et ça explique pourquoi c'est une logique de vengeance. Ce n'est pas du tout une situation de guerre. Ça, c'est vraiment ce que nous sommes en train de dire, est un des aspects les plus profonds, les plus inquiétants, les plus terribles. Parce que de part et d'autre, il y a une spirale de la vengeance, dans la suppression de toutes les médiations, du droit, de l'État, des institutions, etc. Et du coup, effectivement, c'est une spirale de vengeance, si vous voulez, qui nous entraîne, mais nul aujourd'hui n'est capable de prédire et de voir la fin.
C'est-à-dire que plutôt que de tuer Ben Laden, Obama aurait pu l'emprisonner, le juger et le condamner, c'est ça ?
Mais naturellement. Mais naturellement. Bon, j'ai raconté l'histoire dans le livre. Hein, de comment
mais racontez-la, parce non, que tout le monde n'a pas lu votre livre encore, il vient de sortir.
Oui, non, mais bon, parce qu'ils n'étaient même pas sûrs de la localisation de Ben Laden dans la ville de la refuge où il se trouvait. Ils avaient simplement repéré qu'il y avait un homme qui était très grand, qui marchait, qu'ils appelaient le Pacer, le promeneur. Et puis donc les forces spéciales arrivent, etc. Bon, ils le découvrent, ils l'assassinent. Il était d'ailleurs mis à l'écart, il n'avait plus du tout le rôle central qu'il avait. Enfin bon, il y a beaucoup évidemment de parts d'ombre sur savoir ce que le Pakistan savait ou ne savait pas, s'il était couvert, pas couvert. Enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, il l'exécute. Et puis attendez, il ne se contente pas de l'exécuter. Prennent le corps, récitent quelques prières rituelles et le jettent à la mort sans sépulture. Vous savez ce que signifie l'absence de sépulture dans notre propre tradition grecque, enfin européenne, qui remonte jusqu'à la question de la sépulture et d'Antigone. Bon, bien sûr qu'ils auraient pu l'arrêter. Il n'était pas question de le traduire devant les tribunaux. Alors que ça aurait été extraordinaire de voir Ben Laden devant un tribunal. Mais là, il n'était pas question de ça. C'est-à-dire que la justice humaine, enfin, qui est précisément cette médiation fondamentale qui interrompt le cycle de la violence et le cycle de la vengeance. Là, c'est précisément, il n'était pas question de ça. Et du coup, évidemment, on est entré dans un cycle de violence et de haine irrépressible. Et de part et d'autre, qui s'auto-alimente, c'était ça, une de mes thèses fondamentales. C'est que vous ne pouvez pas dire simplement « eux et nous », sans mettre un moment en question nos propres pratiques, si vous voulez. Et en quoi ça alimentait la haine ? Et d'une façon de surcroît qui est totalement inefficace. La torture a été totalement inutile, le rapport du Sénat américain le dit. Elle a été totalement inutile.
Le rapport du Sénat américain en 2014 montre, et pourtant on n'a accès qu'à 10% de ce rapport,
oui.
Prouve
oui.
L'inutilité du recours à la torture par la CIA dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Oui. La présidente de cette commission, qui est une républicaine, etc., dit noir sur blanc. Noir sur blanc, ce que tout le monde savait, mais le dire noir sur blanc, c'est inutile.
Mais alors, que répondez-vous à ceux qui vous objecteront une forme d'idéalisme de votre part ? Certes, bien sûr, dans le meilleur des mondes, nous aurions recours au droit, la justice serait égale pour tous, et serait faite partout, et tout le monde serait jugé à la même enseigne. Mais le fait est que l'escalade de terreur que vous constatez, que vous déplorez, fait qu'il est impossible de mettre en œuvre de tels raisonnements. Enfin, ça ne reste que des raisonnements, c'est impossible de les mettre en acte.
Mais non, pas du tout, parce que tout simplement, ces politiques-là ont contribué, d'abord du simple point de vue factuel, hein, je parle du point de vue factuel, à contribuer en réalité. C'est-à-dire que si vous êtes dans une spirale de vengeance et de haine, etc., vous êtes pris effectivement dans un piège absolument infini. Et donc, ça, c'est pas du tout de l'idéalisme de constater. Attendez, quelle était la situation du terrorisme en 2001 et quelle est la situation en 2015 ? Ça a régressé, ça a été contenu ou au contraire ? Bon, donc, moi, j'en appelle à une évaluation. C'est-à-dire, quelle est la politique économique, si vous voulez, qui aurait été totalement désastreuse, qui ne ferait pas l'objet d'une évaluation ? Quelle est la politique de santé, où l'épidémie serait répandue plutôt, bon, dans tous les domaines ? Donc, on est en droit de demander une évaluation.
Certes.
Juste ça. Mmh. Après, OK, on peut discuter,
parce
on verra bien.
Parce qu'il est extrêmement difficile de savoir, l'alimentation de cette surenchère en termes de mal et de ce que vous appelez l'ère des ténèbres, il est très difficile d'en identifier une seule cause, si nous sommes tous responsables.
Mais
cause économique, une cause sociale, vous évoquez la thèse du post-colonialisme dans votre ouvrage, finalement, ce serait une réaction normale suite à une humiliation subie par une partie de la population mondiale.
Ça, c'est un autre aspect, effectivement, qui est un aspect important du côté dans le monde musulman. Mais pour simplement s'obtenir, donc on a droit à une évaluation sur le plan simplement de l'efficacité, d'évaluer ces pays. Est-ce que c'est de l'idéalisme ? Alors je veux dire non, c'est pas de l'idéalisme. Par contre, est-ce que c'est de la candeur ? Oui. Et moi, je revendique le droit à la candeur. C'est-à-dire de regarder les choses telles qu'elles sont. La candeur de Candide, c'est pas une candeur imbécile. C'est pas une candeur aveugle, c'est pas une candeur qui le rend incapable de regarder la réalité. Au contraire, il dénonce la réalité dans toute son horreur et ça. Donc, si on pense que le respect des principes fondamentaux du droit international public, même du droit interne, que si le respect du droit, de nos principes fondamentaux, qui interdisent la pratique de la torture, qui interdisent les exécutions ciblées, qui interdisent les assassinats, qui interdisent les détentions secrètes, qui interdisent que si ça, c'est de l'idéalisme.
Non, ça non. En revanche, ce que vous proposez dans la conclusion de votre livre, ce que vous nommez le convivialisme, selon reprenant un terme du sociologue et philosophe Alain Caillé, qui est, dites-vous, le promoteur et l'ardent défenseur du convivialisme, qui désigne la recherche patiente et sans illusion béate d'un art de vivre ensemble, qui valorise la relation et la coopération, et qui permettent de s'opposer sans se massacrer en prenant soin des autres et de la nature. Tout le monde est d'accord avec ça. Et là, on va vous dire, bah oui, prenons soin des autres et de la nature, mais ça ne fait pas vraiment avancer les affaires.
Attendez, c'est pas un programme de dire, on peut s'opposer sans se massacrer? Et vous me dites, ah oh non, on peut pas s'opposer
un
sans
programme,
se massacrer.
Un programme, non, une voie à suivre sans doute, et reste à savoir comment elle est mise en œuvre.
Moi, je vais pas faire le plan Sciences Po. Dans l'idéal, ce serait très bien que, mais dans les faits, naturellement, c'est pas possible. Mm. Bon, ça non. Attendez, mais... C'est pas des blagues, je veux dire, les principes, les normes, c'est pas des blagues. Si on condamne la peine de mort, d'ailleurs sur ça je pourrais revenir dans la situation présente, mais si vous abolissez la peine de mort, c'est pas en disant, oh bon, d'accord, en général, mais c'est de l'idéalisme pur, et bien dans d'autres cas. Non, ce sont des principes.
Non, l'abolition de la peine de mort, pour le coup, a un statut juridique. Écrire...
Mais tous les principes, mais tout ce dont j'ai parlé, ce sont des principes, ce sont des principes juridiques. Et c'est... Attendez.
Non, mais ce que je veux dire, c'est comment est-ce que le terme même de convivialisme, l'idée que cela véhicule, le programme que vous proposez, à partir du moment où il l'invite à ne pas se massacrer en prenant soin des autres et de la nature, la phrase est très claire, mais quel impact peut-elle avoir dans la réalité? Il faut quand même interroger, vous le faites dans votre livre, à l'égard d'Obama, à l'égard des figures terroristes que vous envisagez, cet écart entre la parole d'un côté, les mots, et les actes de l'autre. Ben, je vous pose la même question concernant le travail même là que nous sommes en train de faire.
Mais je pense qu'un chef d'État... Et un vrai chef d'État, un vrai homme d'État, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a un projet, qui a une vraie conception du monde, si vous voulez, de ce que le monde doit être. C'est pas du tout de l'idéalisme. Attendez, nous n'avons plus aucune utopie, nous n'avons plus aucun espoir, nous n'avons plus aucun avenir, nous sommes pris dans ce piège comme ça absolument infernal de la concurrence économique, des inégalités, des ravages de la nature, du terrorisme, etc. Et tout ça, on devrait simplement l'accepter parce que c'est de l'ordre
non,
des faits, etc.
Non, c'est pas ou tout noir ou tout blanc, c'est pas soit on accepte tout, soit on est idéaliste, il y a un juste milieu, justement, c'est là-dessus que je vous interroge.
Mais bien sûr que nous devons penser à un monde différent, que nous devons essayer de... que nous devons d'abord faire une évaluation de l'état du monde tel qu'il est, des politiques qui ont été mises en œuvre, et de penser à des alternatives. Il y a des alternatives. Il n'y a pas de nécessité en histoire. Il y a des alternatives. D'autres choix politiques. Bush n'avait pas été obligé de justifier le recours à la torture le lendemain du 11 septembre. Il n'était pas obligé de justifier le recours à des centres de détention secrets, etc. Rien de tout ça n'était absolument nécessaire. D'autres politiques étaient possibles, certainement davantage. Et c'est pas de l'idéalisme de dire ça. Et pour dire, si vous voulez, il y a un mot de Malebranche auquel je songe, et qui irait très bien dans le sens de ça. On a de très bonnes raisons de préférer son cheval à son cocher. Mais cela est contre la raison. Eh oui, on a de très bonnes raisons, si vous voulez, pour justifier un certain nombre de choses. Mais qui sommes-nous? Quels sont nos principes? Quelles sont nos valeurs? Etc. La question, c'est, moi je pense, le terrorisme, c'est un test pour les démocraties. C'est-à-dire, c'est un test, une capacité de résistance à des agressions, et pas du tout l'occasion immédiate du renoncement à tous leurs principes. C'est pas la même chose. Et c'est exactement ce qui a été mis en œuvre, à mon avis, avec la plus absurde stupidité. Je pense que c'est de la stupidité. Je pense que la torture, c'est totalement stupide. C'est d'abord stupide. Inefficace, transgression alimentant la haine, tout ce que vous voulez, stupide. Donc quand même, si vous voulez, c'est la question, c'est un test de résistance. Qu'est-ce qui va en aide nos sociétés dans 30 ans? Mettez un ou deux attentats en plus, genre Charlie, etc., en France. Mais qu'est-ce qui va se passer dans notre société? Quelle va être notre capacité de résistance, si vous voulez? Qu'est-ce que nous sommes prêts à accepter au nom de ça? Mais c'est terrible! Les Américains, c'était pareil. Le lendemain du 11 septembre, 70% étaient d'accord pour la torture. Bon. Donc c'est un test de risque. Et c'est sérieux, ça! Quel est le monde que nous allons laisser à nos enfants? Où la démocratie, les principes qui ont été longuement établis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette longue avancée du droit, de l'instauration du droit public international, du droit humanitaire, etc. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est pas juste des choses qu'on peut défaire.
So many years of war. Aren't you tired of it? I know I am.
Well, you could have just left us alone, you know.
After you hit us on 9/11. I don't think so.
please. By all means, speak freely, but also honestly. We did not fly those planes into the World Trade Center.
Tant d'années faire la guerre, vous n'en avez pas assez. Moi, j'en peux plus.
Oh, vous auriez pu nous laisser tranquilles.
Après l'attentat du 11 septembre, je crois pas, non.
S'il vous plaît, parlez librement, mais honnêtement. Ces deux avions sur le World Trade Center, ce n'est pas nous. C'est Al-Qaïda.
Vous leur avez offert l'asile. Vous avez abrité Oussama Ben Laden.
Ben Laden était saoudien. 15 de ces pirates de l'air étaient saoudiens. Je ne vous ai pas vu envahir leur pays.
Nous sommes venus ici pour tuer ou capturer ceux qui étaient directement responsables.
Et vous êtes restés. Encore restés. Et encore restés. Vous avez détruit notre culture. Et notre religion.
Non, c'est faux.
L'Amérique méprise ce qu'elle n'arrive pas à comprendre.
Vos méthodes sont meilleures.
Seul l'islam peut permettre aux hommes de fonder une société juste et pieuse, en harmonie...
Votre version de l'islam est régressive et à contre-courant.
Nous devons nous conformer aux actes du prophète.
Asservir les femmes, massacrer tous les non-croyants, porter des ceintures d'explosifs. Je me souviens pas avoir lu ça dans le Hadith.
Faites attention, mon ami.
Vous avez éduqué et formé toute une génération à vivre avec un pied dans l'au-delà.
Nous faisons ce qui est nécessaire pour reprendre notre terre.
Vous avez exécuté votre neveu. Et peu avant cela, vous avez sacrifié sa famille dans une frappe aérienne. En quoi était-ce nécessaire?
Vous pointez votre doigt sur l'islam. Mais si l'on jugeait le christianisme sur le mal qu'il a réellement causé à l'humanité, qui voudrait être chrétien?
Je suis juif.
Écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Bienvenue sur les chemins du vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Michel Terechenko qui vient de publier aux éditions du Bord de l'Eau L'ère des ténèbres, et nous arpentons avec lui, chapitre après chapitre, le contenu de cet ouvrage. Alors, on vient d'entendre un extrait de la série Homeland. Michel Terechenko, que vous connaissez sans doute.
Ah oui, très bien.
Puisque vous travaillez sur ce genre de questions. Alors, cet extrait est significatif à plusieurs égards. Déjà, il est intéressant de remarquer de quelle manière les Américains se ressaisissent des problématiques les plus contemporaines sur le sujet. Eh bien, par le biais de la fiction, soit le cinéma, et même surtout les séries, hein, puisqu'on avait 24 heures chrono, qui posait très bien ce problème du recours à la torture face à la loi. Et aussi, donc, Homeland, donc la quatrième saison, qui est parue l'an dernier, en 2014, qui, là, dans cet extrait, met face à face Saul Berenson, qui est l'ancien chef de la CIA, qui a été fait prisonnier par un chef taliban. Ils discutent ensemble de cette opposition entre les Américains d'un côté et les talibans de l'autre, en se disputant sur qui est à l'origine de cet affrontement. Et on voit bien, c'est là où l'extrait est génial, parce que ça fait référence à beaucoup de choses que vous dites dans votre livre, en parlant, on va y venir, notamment du personnage de Mohamedou Slahi, qui est enfermé à Guantanamo, qui a publié ses carnets où il raconte comment il est traité, comment il en vient à finalement inventer quelque chose pour ne plus être torturé. Comment finalement, la vraie guerre, elle est aussi entre un discours et un autre. Les arguments sont infinis dans un cas comme dans l'autre. Ce face-à-face, il est emblématique parce qu'il montre qu'il n'y a aucune résolution possible. Les deux ont raison. Alors c'est à partir de là que fait-on?
Mais bien sûr. Mais le problème, c'est pas simplement, si vous voulez, que l'ancien chef de la CIA et donc le Taliban, etc., se renvoient à des arguments sans fin, etc. Ça, je vous signale que c'est en quelque sorte exactement l'illustration de cette spirale de la vengeance.
C'est pour ça qu'on l'a diffusé.
Tu as fait ça, j'ai fait ça, tu as fait ça, j'ai fait ça. Attendez, c'est exactement dans cette situation qu'on est. Mais le problème, c'est pas seulement ça. C'est que nous aussi, on est pris au piège, on est obligé de se placer dans ce débat. Et moi, je dis non. Le but du livre, c'est de ne pas être pris au piège de ce débat. C'est précisément de se placer en surplomb ailleurs. Non, je veux pas être pris dans ce débat. Je veux pas être pris dans ce... Je ne veux pas que mes enfants, je ne veux pas que nos citoyens, je ne veux pas que nous soyons pris dans, si vous voulez, ce piège dans lequel nous sommes pris. Bon, Si vous ne faites pas, vous me dites, alors, les réalistes vont vous dire, ah, vous êtes idéaliste, etc. Bon, etc. Mais non, pas du tout. Nous n'avons pas à être pris dans ce piège, effectivement, de ce type de ce dialogue, etc., où ils se renvoient l'islam, le christianisme, et puis bon.
C'est important quand même, là, pour le coup, que là, au moins, en plus, ils peuvent dialoguer, ils les fait prisonniers, mais au moins, ils ont l'occasion de confronter leur point de vue. Les décisions ne peuvent pas venir uniquement d'une instance supérieure, qui, au nom de la loi, appliquerait la même loi pour tous. Il y a quand même cet échange qui est de l'ordre des discours et des mots qui doit être possible.
C'est pas un échange. C'est pas une discussion, c'est pas une argumentation. Tu as fait ça, j'ai fait ça, tu as fait ça, j'ai fait ça. Mais attendez, c'est la cour de récréation. C'est pas ça une discussion. C'est pas ça une discussion. Je veux dire, si nous devons créer les conditions d'une discussion raisonnable entre les peuples, entre entre les hommes, c'est pas simplement en s'échangeant, si vous voulez, des faux arguments de cet ordre-là. C'est de créer un espace qui est un espace de discussion. Selon cette espèce d'éthique de la discussion, comme on trouve chez Habermas, etc. Bon. Et là, qui est un espace de discussion. L'espace de la discussion critique, si vous voulez, l'espace de la discussion entre les hommes, entre les peuples, entre les États, entre les nations, etc. C'est pas simplement, si vous voulez, se renvoyer dos à dos, effectivement, des reproches en fonction de ce que chacun a commis. Parce que ça n'amène absolument à rien. C'est pas ça une argumentation. C'est pas ça une argumentation. C'est pas ça un espace où on va trouver une solution. On va trouver un accord, si vous voulez, sur la base d'une argumentation. Naturellement que c'est ça qu'il faudrait chercher. Vous ne croyez pas que les Palestiniens, les Israéliens pourraient essayer de trouver un espace de discussion raisonnable plutôt que de faire capoter d'une certaine manière toutes les formes de discussion pour une raison ou une autre, etc. Bon, on voit bien que je dis, mais attendez, mais ça paraît raisonnable et presque du bon sens que chacun va essayer de se mettre de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre ses arguments, ses raisons, etc. Et pas être pris dans le piège, justement, de cet échange de reproches. Ça, c'est une autre façon de procéder. En philosophie, je veux dire, effectivement, des gens qui essayent de penser les modalités d'une paix mondiale passent par, bien sûr, cette éthique de la discussion, qui est d'une toute autre nature, et qui n'est justement pas pris au piège de dire « tu as fait ça, j'ai fait ça, le christianisme, l'islam, etc. » qui ne mène à rien. Naturellement, les arguments sont parfaitement légitimes et parfaitement exacts. Ils ne mènent à rien. C'est pas ça, une discussion.
Non, c'est bien ça. Et c'est d'ailleurs le sens de l'extrait qu'on a diffusé n'était pas un exemple de discussion parfait, puisqu'à ce moment-là, justement, l'Américain est prisonnier par les talibans. Donc, on n'est pas du tout dans l'éthique de discussion. Mais l'intérêt de cet extrait, suite à la discussion, enfin, au sein de cette discussion que nous sommes en train d'avoir, c'est de pointer la difficulté d'un recours à la théorie, aux arguments, ne serait-ce historiques, sociaux, économiques, pour justifier une situation. Si on ne peut pas, si c'est toujours, si pour sortir du conflit œil pour œil, dent pour dent, il faut appliquer une même justice pour tous, bah là aussi on est tous d'accord sur le principe, mais j'en reviens à l'applicabilité de ce que vous proposez. Bien sûr, tout le monde voudrait que la justice dispense le jugement humain, qu'on n'ait pas recours à la torture, mais comment fait-on concrètement? Si c'était possible, est-ce qu'on ne l'aurait pas déjà fait?
Vous savez, je pense que c'est d'abord une question de volonté. D'abord, nous parlons de politique, fondamentalement de politique. Et la politique, même si aujourd'hui on ne sait plus ce qu'elle est, et qu'elle a perdu, semble-t-il, beaucoup de sens pour la plupart des citoyens, c'est quand même, elle est fondée sur des choix, sur des principes, sur des engagements, sur une vision du monde que l'on veut, etc. Vous me direz, aujourd'hui, bon, il n'y a presque plus d'alternative, si vous voulez, véritablement politique, comme il pouvait y avoir encore, disons, jusqu'à la fin des années 90, etc. Mais qu'est-ce que c'est que, je veux dire, si les hommes sont des acteurs politiques, c'est que fondamentalement, le monde est ce qu'ils font. Le monde est ce qu'ils font. Peut-être ils ne savent pas, effectivement, comme disait Aaron, quel monde ils font, mais quand même, nous sommes les auteurs. Si nous perdons la conscience que nous, que les citoyens et que les hommes ensemble, sont les auteurs de l'histoire qu'ils font. Si nous pensons qu'elle se fait en dépit d'eux, ou en dépit de nous en tant que citoyens, parce que ça impose des nécessités économiques, le discours de la nécessité qui emporte en économie, alors qu'est-ce qu'il reste en effet des alternatives possibles? Si nous pensons que dans l'affaire du terrorisme, il n'y a que des nécessités strictement sécuritaires, etc. Si nous sommes dans le discours de la nécessité, il n'y a qu'un seul type de régime qui se réclamait de la nécessité, c'était le totalitarisme. Ce qui explique très bien Anna Arendt, c'est le totalitarisme se légitimait sur une idéologie de la nécessité. Nous ne croyons pas qu'il y a une nécessité. Nous croyons que l'histoire est une histoire que nous faisons, qu'il y a des options, qu'il y a des alternatives, qu'il y a des choix, qu'il y a d'autres possibilités. Qu'il n'y a justement pas, si vous voulez, un déterminisme, une nécessité qui fait que seule cette politique est possible, que seule la politique de surveillance telle qu'elle est mise en œuvre est possible et qu'il n'y en a pas d'autre, etc. Or, nous sommes aujourd'hui, semble-t-il, pris dans ce discours de la nécessité, d'ailleurs qui est un discours qui est produit par les États et qui est capté par les États, parce que les États ont dans un certain sens la seule information, et qui fait que nous ne pouvons pas d'une certaine manière le remettre en cause, d'abord parce que nous n'avons pas l'information, et parce que nous ne participons précisément pas à ce débat. Mais nous ne pouvons pas accepter, si vous voulez, ce discours étatique qui s'impose comme une nécessité, et qui nous prive de notre droit de regard. Parce que fondamentalement, s'il devait donner une définition de la démocratie, sans doute il y en a beaucoup, mais enfin il y a au moins une définition fondamentale, c'est que nous sommes les auteurs des politiques, ultimement les auteurs des politiques publiques qui sont mises en œuvre en notre nom. Et nous ne pouvons pas être dépossédés de ce droit de regard, de ce droit de discussion, du fait que nous sommes ultimement les auteurs de ce... Et nous sommes dépossédés. Pour revenir à la question que vous disiez, volontairement ou involontairement, à la faveur d'une certaine forme de passivité et d'acceptation tacite. Et je veux vous dire juste une chose très importante. Ce qui, moi, m'inquiète, c'est que cette passivité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les citoyens acceptent passivement, chaque moment, un certain nombre de lois et de politiques publiques qui vont progressivement, avec le temps, conduire à un type de société dont il n'est nullement établi qu'ils seraient d'accord avec ce type de société. C'est-à-dire qu'à chaque moment, ils acceptent en quelque sorte passivement les lois sur la sécurité, la remise en cause des droits fondamentaux. Mais au bout du compte, cela conduit à un type de société dont on ne peut pas du tout dire que ce soit ce type de société qu'ils veulent réellement. Mais une fois qu'elle est là, c'est trop tard.
Mais là, ce que vous pointez, c'est le désintérêt général des citoyens pour la politique. On dépasse le cadre d'une réflexion sur la violation du droit par les démocraties dans le cas d'une lutte contre le terrorisme. Finalement, l'appel auquel vous en appelez de la part des citoyens, cette espèce de réveil qui demanderait aux citoyens de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire, de la société vers laquelle nous sommes en train d'aller, c'est une réflexion, beaucoup plus large que une simple réflexion, si j'ose dire, ou qui se restreindrait au cadre d'une réflexion sur le rôle des démocraties dans la lutte contre le terrorisme.
Mais bien sûr. C'est un livre en un certain sens politique, même si c'est un livre, il est politique en ce sens-là. C'est-à-dire qu'il consiste à rappeler une vérité élémentaire, que effectivement, en tant que citoyens de démocratie libérale, nous sommes les auteurs ultimement des politiques qui sont mises en notre nom. Que nous ne pouvons pas accepter en quelque sorte ce discours qui, d'une certaine manière, nous prive de notre droit de discussion, d'information et de discussion et de remise en cause et donc d'exercice critique sur ces politiques. Parce que sinon, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner du discrédit total dans la politique, si vous voulez, effectivement, fait l'objet. Si les citoyens ont le sentiment d'être en réalité privés de leur capacité d'action et de leur capacité à transformer d'une manière ou d'une autre, le monde dans lequel ils sont, parce qu'il y a simplement des nécessités qui sont à l'œuvre. Je dis, ce discours de la nécessité, c'est une illusion, c'est une fiction. Il n'y a pas de nécessité. Donc nous devons, et bien sûr que ça va au-delà de la question du terrorisme. Cette question de cette manière dont les citoyens se sentent dépossédés, en réalité, de leur capacité d'agir et de vouloir un monde qui serait celui qu'ils ont véritablement, qu'ils pourraient vouloir vraiment.
Que pensez-vous dans ce cas? Je ne peux pas ne pas vous poser la question de ce qu'on appelle désormais la journée du 11 janvier, où là, pour le coup, l'éveil des citoyens a donné lieu à un rassemblement qui a été critiqué par certains, dénoncé par d'autres, en disant que c'était un rassemblement illusoire, enfin qu'il n'y avait rien de républicain là-dedans, que c'était qu'une partie de la République qui se rassemblait. Et pourtant, quelle est votre lecture de cet événement au regard de ce que vous dites, cette passivité des citoyens que vous déplorez?
Alors, je ne vais pas être polémique, je le dis tout de suite, je n'ai pas l'intention d'être polémique ni de lever des polémiques sur cette question-là. Moi, je ne conteste pas du tout, je comprends très bien, si vous voulez, je pense que c'est tout à fait salutaire et tout à fait compréhensible et tout à fait... que c'est très bien, si vous voulez, parce que la société française a été blessée d'une façon, effectivement, terrible. Et donc, que cette émotion, si vous voulez, etc. Mais il y a deux choses, et je veux vraiment le dire de façon non polémique. Il y a deux choses. C'est que, ce qui m'a frappé, c'est que dans les discours politiques, même Obama à la Maison-Blanche, lorsqu'il a fait allusion, lorsqu'il a parlé de cette tuerie, donc, à Charlie Hebdo, c'était de nouveau le « eux » et le « nous ». Et nous aussi, ça a été le « eux » et le « nous ». Il n'y a pas un moment où j'ai entendu quelqu'un qui s'est dit « mais attendons, essayons de réfléchir aussi sur ce que nous avons fait ». Pas un instant. Et puis il y a une autre chose, je l'ai dit dans le livre et je vais essayer là encore de le dire de la façon la moins polémique qui soit. Ce qui est très frappant, en tout cas ce qui m'a frappé, c'est que tout de même, les frères Kouachi, il y a un arrêt de mort qui a été prononcé sur eux. Il n'a pas été question de les arrêter. On aurait pu peut-être éventuellement les arrêter. Il y a eu un arrêt de mort, une décision de mort. Et ça n'a pas fait l'objet en tout cas de discussion, si vous voulez. Il n'y a pas eu vraiment de discussion sur le fait qu'ils aient été exécutés, qu'ils aient été... et qu'éventuellement, on aurait pu peut-être les arrêter ou les traduire en justice, etc.
Il y a quand même une situation d'urgence qui fait que là, pour le coup, la question de la traduction non, mais... en justice est... Et peut-être malheureusement, mais passe au second plan lorsqu'on est en train de... On est dans une course-poursuite contre des gens qui viennent de tuer 12 personnes.
Ah oui, vous savez, c'était quand même une traque à mort. Hein. Je veux dire, on doit s'interroger sur ça. Je veux, encore
oui, mais
une
c'est
fois...
vrai que c'est difficile de ne pas rétorquer oui. par une violence.
Je veux pas, je veux dire, là, je veux bien, je veux même pas, je veux dire, je veux même pas nécessairement débattre sur ça. Je sais qu'il y a des gens qui disaient, non, nous, on, il y a des gens qui m'ont dit, mais non, nous, on aurait souhaité qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient traduits en justice. Moi, j'avais le sentiment que c'était plutôt, si vous voulez, une espèce de, ouais, d'arrêt de mort, etc., de, qu'ils étaient tout d'un coup en dehors de l'humanité, que tout d'un coup, les règles du droit commun, etc., avait été en quelque sorte suspendu. Je veux dire, on peut s'interroger sur ça. Je ne vais pas l'affirmer, parce que je ne veux vraiment pas créer de polémique.
Non, mais
d'où
le recours à un tiers, mais... comme le pointait Hegel, justement,
oui,
qui veut
oui,
établir une justice
oui.
là où nous sommes pleins de ressentiments.
J'ai eu le sentiment, si vous voulez, que... Et ça, ben, c'était porté atteinte, si vous voulez, quand même là aussi. Je veux dire, l'abolition de la peine de mort, vous savez, l'abolition de la peine de mort, quand le président Hollande utilise des pratique les exécutions ciblées, avec où il a sa kill list, comme cela a été révélé, donc, dans un ouvrage récent. Elle est où, l'abolition de la peine de mort en France? Est-ce qu'elle est si absolue et si totale que ça? Si le président peut décider de liquider, par les services secrets ou les forces spéciales, un certain nombre de terroristes, alors, elle est vraiment abolie, la peine de mort?
La peine de mort, en l'occurrence, l'abolition de la peine de mort, c'est l'abolition de la peine de mort comme étant une sentence prononcée à l'issue d'un jugement.
Oui.
On parle d'un meurtre, là, mais là on parle plutôt d'un meurtre, justement,
c'est,
qu'une
oui,
peine
c'est
de mort.
C'est encore pire.
Oui.
Quand même, on devrait s'interroger sur ça. On dit la peine de mort est abolie depuis 1981, donc on ne tue, même dans le cadre d'une justice, etc. On devrait s'interroger sur ça. Je pense que c'est une vraie question. Je veux dire... Je dis encore sur la candeur, on peut pas passer sur ces choses-là. On peut pas passer parce que cela change, si vous voulez, progressivement. J'allais dire l'esprit même de nos institutions, l'esprit
donc,
même de nos sociétés.
Le moyen d'action que nous avons en tant que citoyens, quel est-il? C'est comme le prônait Thoreau, la désobéissance civile. Je suis en désaccord avec l'État, donc je refuse de voter. Et donc du coup, je passe la nuit en prison parce que l'État me punit d'avoir pas voté. Mais je le fais en connaissance de cause et pour manifester mon mécontentement à l'égard de l'État.
J'aurais une conception plus large et plus libérale de la tolérance que cette conception-là. Mais enfin bon, qui est une conception à la John Locke, enfin bon, peu importe. Non, je crois vraiment, sincèrement, que nous devons, je voulais encore une fois, voir ce que nous avons sous les yeux, voir vraiment les dynamiques de transformation sociale qui sont à l'œuvre et politiques qui sont à l'œuvre dans nos sociétés, que nous ne pouvons pas laisser passer cela avec une certaine forme de consentement, de passivité, etc. Parce que tout d'un coup, c'est un autre monde qui va apparaître et on ne reviendra pas en arrière. Vous croyez qu'on va revenir en arrière sur la loi de sécurité, sur la loi de renseignement? Non, pas du tout. On ne reviendra jamais en arrière. Donc progressivement, si vous voulez, c'est une autre société qui se met en œuvre et on ne reviendra pas en arrière. Mais qu'en sera-t-il effectivement dans 20, 30 ans, etc. On doit être ferme. On peut pas être, je veux dire, totalement, si vous voulez, complaisant. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. En d'autres temps, il y avait beaucoup plus de force de mobilisation politique. Dans les années 60, dans les années 70, les Américains, etc., ont été capables de mettre en cause de façon extrêmement ferme les politiques au Vietnam, etc. Mais où sont aujourd'hui ces forces de contestation?
Pourvu que vous soyez entendu, Michel Terechenko, et pourvu déjà que vous soyez lu, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « L'ère des ténèbres », publié aux éditions du Bord de l'eau.
On fire, the roof, the roof, the roof is on fire, the roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn, burn, motherfucker. My name is...
is Jimmy Pop and I'm a dumb white guy. I'm not old or new, but middle school, fifth grade, like junior high. I don't know, mofo, if y'all peeps be puggin', giving props to my hoe, cause she fly, but I can take the heat, cause I'm the other white meat known as Kid Funky Fried. Yeah, I'm hung like planet Pluto, hard to see with a naked eye, but if I crashed into Uranus, I would stick it where the sun don't shine, cause I'm kind of like Han Solo, always stroking my own Wookiee. I'm the root of all that's evil, yeah, but you can call me Cookie. On fire, the roof, the roof, the roof is on fire, the roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn, burn, motherfucker. Everybody, here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, party people. Wave them like you don't care. Come on, party people. Everybody say ho. Come on, party people. Everybody, here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, party people. Like you don't care. Come on, party people. Everybody say ho. Come on, party people. Everybody, here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, party people. Wave like you don't care. Come on, party people. Everybody say ho.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes papillon, il est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Bosna-Savoie qui vient vous donner envie de lire un livre qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, coup de fil au philosophe Francis Métivier qui anime pendant 4 vendredis et dès ce soir, vendredi 22 mai, au MK2 Grand Palais, le cycle Rock and Philo, en même temps que paraît un ouvrage éponyme aux éditions J'ai lu. Il nous présente ce cycle et nous explique le lien entre philosophie et rock.
Alors c'est un cycle en 4 temps, 4 thèmes, la liberté, le bonheur, la politique et la vérité, où j'explique sur scène donc les grandes idées de la philosophie sur ces concepts-là, en les illustrant par des morceaux rock que j'interprète moi-même. Le lien entre la philosophie et le rock, c'est un questionnement commun sur des interrogations fondamentales qui concernent le moi, le monde, ma place dans la société, les sentiments, l'amour, le désir. Alors, évidemment, les modalités de traitement ne sont pas les mêmes, mais du point de vue du fond du questionnement, les deux pratiques se rejoignent pour moi. Par exemple, pour la vérité, qui sera la 4e session, je vais expliquer la célèbre phrase de Descartes « Je pense, donc je suis » en l'illustrant par une chanson, enfin la fameuse chanson des Pixies « Where is my mind ?» qui sont deux références sur le doute, et un doute qui, à force d'être approfondi et pris de façon radicale, amène à une forme de vérité sur l'existence du je pensant.
Et pour assister à ce cycle, chers auditeurs, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance.
Merci beaucoup Géraldine, les Nouveaux Chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine consacrée au bac philo. Et oui, vous l'attendiez, la voici, la 2e session d'émission que les Nouveaux Chemins consacrent à la préparation de l'épreuve de philosophie le jour du bac. Vous le savez, un professeur et ses élèves viennent traiter pour vous un sujet de dissertation ou commenter un texte susceptible de tomber le jour du bac. Alors rendez-vous lundi pour le premier sujet de dissertation. Faut-il toujours chercher la certitude ? D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et puis surtout, vous pourrez la podcaster, la télécharger afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.
Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où les nouveaux chemins mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendent vos remarques et commentaires. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54. Tout de suite, Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.